Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Je compris très tôt que les hommes avaient le pouvoir et ce pouvoir je le voulais. Oui, je leur volerais le feu. Je n'accepterais pas les limites que ma mère tentait d'imposer à ma vie parce que j'étais une femme. Cette profession de foi, c'est celle de Niki de Saint-Phalle. Catherine Marie-Agnès Phalle de Saint-Phalle pour l'état civil, née en octobre 1930 dans les quartiers huppés de Neuilly-sur-Seine, n'est pas forcément préparée à ce discours révolutionnaire. Catherine, rapidement rebaptisée Niki par sa mère, grandit entre les châteaux familiaux en France et les gigantesques appartements de Park Avenue à New York. Son père est issu d'une vieille famille de la noblesse chevaleresque convertie à la banque. Sa mère est une richissime héritière américaine. Sur le papier, une vie rêvée. Mais derrière les rideaux des palaces se cache un environnement violent. La mère de Niki se montre souvent brutale, y compris physiquement. Mais l'horreur arrive un jour de l'été 42. La petite fille a 11 ans et son père la viole. Le couple maintient les apparences d'une famille bien sous tout rapport, mais Niki étouffe sous cette morale affichée. Dans son école catholique de Manhattan, elle peint en rouge vif les feuilles de vigne qui recouvrent le sexe des statues. Sa scolarité se passe mal. Niki est agitée, irrévérencieuse. À 17 ans, un agent de mannequin la repère dans un bal. Elle entame une carrière, pose en couverture de Life Magazine et de Vogue Paris dans un épais manteau de fourrure. Niki est belle, très belle même, avec ses traits fins, ses grands yeux bleus et ses chapeaux extravagants. Au même moment, elle épouse l'écrivain américain Harry Matthews et accouche d'une petite fille. Mais la jeune mariée sombre dans une dépression si violente qu'elle est internée. Harry lui apporte papier, crayon et pinceau. C'est là que l'artiste commence à peindre. Sortie de l'hôpital, Niki visite l'Espagne avec son mari. En 1955, elle découvre avec émotion le parc Güell de Gaudí à Barcelone. C'est sa nuit de gêne à elle. Dans son cœur, elle nourrit le projet de réaliser son propre jardin de joie rempli de sculptures. Niki rentre à Paris au milieu des années 50. Elle y rencontre le sculpteur et inventeur de machines détournées, Jean Tinguely. Dans son atelier, elle lui suggère d'ajouter des plumes à l'une de ses œuvres. Tinguely est étonné et séduit aussi. Les deux artistes ne se quitteront jamais. Au départ, Niki de Saint-Phalle peint des huiles plutôt classiques, puis elle se lance dans des tableaux d'assemblage faits d'objets trouvés et de matériaux divers comme la terre, le plâtre, le fil de fer. Autodidacte, elle se nourrit de l'art brut en vogue dans les années 50 et va tous les jours au Louvre. Elle côtoie des artistes et lit beaucoup. Le succès n'est pas long à venir. En 1961, Niki de Saint-Phalle attire l'attention en France et dans le monde entier pour ses tirs, des tableaux conçus comme des performances à la carabine. Armée d'un 22 long rifle loué au stand de tir d'une fête foraine, la jeune femme fusille ses toiles pour en faire éclater des petites poches pleines de peinture. De la destruction naît la création. Sans l'art, dit Niki, je serais morte, la tête éclatée. Mais il ne s'agit pas que de survivre, il faut aussi vivre, faire voler en éclats toute l'hypocrisie du monde dans lequel elle a grandi. Cet univers où l'on porte un masque. Moi, je ferais le contraire, je montrerais tout. Mon cœur, mes émotions, le vert, le rouge, le jaune, toutes les couleurs, revendique-t-elle. Dès ses débuts, Niki de Saint-Phalle réussit la synthèse pourtant difficile de l'avant-garde et de la reconnaissance publique. Mais la véritable célébrité s'annonce quand en 1964, elle crée sa première nana. Niki n'a pas oublié ses envies de sculpture. Alors, elle fabrique une femme avec du grillage et des draps trempés dans de la colle, décorée de laine colorée. Nana, comme le surnom de l'une de ses anciennes nourrices. Nana, comme ce terme populaire qui désigne des femmes. Au fur et à mesure, ses sculptures se professionnalisent. Elles sont en résine de polyester, puis en polystyrène, recouvertes de couleurs vives. Elles sont immenses, monumentales. Une réalisée en 1966 pour le Moderna Museet de Stockholm pèse 6 tonnes. Elle est couchée sur le dos et les visiteurs y pénètrent par son vagin. Les autres nanas sont aussi imposantes et bariolées, mais plus aériennes. Elles sont légères, semblent danser, soulevées du sol, avec grâce, nullement gênées par leur ventre bombé, leurs fesses rebondies, leurs seins gonflés. Elles n'ont pas de visage ni aucun orifice. Elles sont impénétrables, inviolables. L'ange protecteur, par exemple, vole au-dessus de la gare de Zurich comme une plume de 11 mètres et de plus d'une tonne. Son maillot de bain à rayures bariolées est peint à l'eau. Un cœur sur un sein, une fleur sur l'autre. Niki s'inspire du pop art américain. Elle est aussi une héritière du mouvement Dada et fait partie du groupe des nouveaux réalistes fondé par le peintre Yves Klein et que rejoint aussi Christo notamment. Ensemble, ils prônent un retour à la réalité par opposition à la peinture abstraite sans pour autant tomber dans la figuration. Les nanas ont un succès énorme. Elles s'exportent dans le monde entier, Bâle, Hanovre, Montréal. Elles répondent aussi à une volonté de leur créatrice de sortir l'art des salons, des galeries et des musées pour l'offrir à tous dans les jardins et dans les rues. Nikit Saint-Phalle est si liée à ses sculptures que parfois elle s'agace de voir son art réduit aux nanas. Leur aspect acidulé les plaît. Elles sont jolies, pop, gaies. Elles se déclinent sur des t-shirts ou sur des tasses, mais sous leur aspect enfantin, les nanas révèlent un sens éminemment plus politique. Dans les années 60, les femmes sont encore majoritairement au foyer. Les femmes artistes existent, mais peu accèdent à la reconnaissance. Nikit Saint-Phalle porte déjà, par sa présence et son travail, une forme de féminisme. De ses tableaux à la carabine réalisés avant le mouvement de libération des femmes, elle dit « C'était très scandaleux de voir une jolie jeune femme tirant avec un fusil et râlant contre les hommes dans ses interviews ». Avec les nanas, Saint-Phalle entame une œuvre qui n'est pas immédiatement perçue comme féministe. Pourtant, les sculptures figurent des femmes puissantes, dynamiques, sportives, à l'aise avec leur corps, tout en s'éloignant des canons de beauté, prônés notamment par les magazines féminins. Surtout, elles occupent l'espace public traditionnellement réservé aux hommes. Les nanas s'imposent par leur grande taille, elles dominent le monde de leur assurance. Les couleurs dont elles se drapent dissimulent au premier regard leur subversivité. C'est une armée qui, aux quatre coins du monde, lance gaiement, comme leur créatrice, les nanas au pouvoir, les femmes au pouvoir. L'artiste crée aussi des nanas noires, montrant sa sensibilité, son engagement vis-à-vis de la question raciale aux États-Unis. L'œuvre de Nikit Saint-Phalle épouse les luttes de son époque pour les droits civiques et l'émancipation des femmes. C'est aussi ce qui fait son succès. Elle vient parfaitement épouser les années 60, la décennie de la provocation, de la rébellion face à l'ordre ancien, ce que Nana combat aussi de manière plus intime, la famille, le patriarcat, l'Église. En 1971, Nikki épouse Jean Tinguely, son complice de longue date. Avec lui, elle se lance dans son grand projet, le Jardin des Tarots en Toscane, un parc parsemé de sculptures gigantesques auquel elle travaille pendant 20 ans. Elle est le chef d'orchestre et son mari l'assiste. Une situation assez rare dans le monde de l'art pour être mentionnée. En 2002, Nikit Saint-Phalle décède d'un problème respiratoire lié aux produits et matériaux utilisés sans protection pendant toute sa carrière. Dans son jardin italien, dans lequel elle a montré qu'une femme pouvait faire aussi bien que Gaudi, figure en bonne place une nana. Nikki est partie, mais Nana, elle, continue de danser sur les toits.